Chapitre 18. L'échelle des peines. La table est mise, une profusion de plats pour reprendre des forces, se réconforter, se féliciter. Des recettes froides, hormis la fameuse soupe, menthe ortifane de radis. Elle attend sagement dans la soupière que quelques humains fatigués viennent se brûler les papilles à son contact. Deux jours plus tôt, sa préparation a permis à Capucine d'apprivoiser un peu plus Clémence, de comprendre au fil de la discussion pourquoi elle avait aussi peur des orties, de lui montrer aussi qu'on survit de les affronter. Les peurs comme les orties. La jeune femme avait remis ses gants pour couper les pointes et ne garder que les feuilles tendres, puis elle a ajouté les fans de radis dans la casserole. Enfin, elles sont allées cueillir la menthe. Capucine en a profité pour lui enseigner les aromatiques. Différencier le thym de l'origan, froisser les feuilles de verveine citronnée, de sauge, de mélisse, et les porter à son nez pour s'imprégner des odeurs puissantes. Elle lui en a même fait croquer, et Clémence a grimacé tant le goût était fort. Elle a aimé découvrir et apprendre ce qu'elle ne connaissait que déshydraté en flacon au supermarché. Puis, elles ont recouvert d'eau, ajouté du sel, du poivre, quelques épices, et ont laissé mijoter. Quand la soupe a été moulinée, additionnée d'un filet de crème fraîche, Clémence, méfiante, y a trempé une cuillère et l'a goûtée du bout des lèvres. Elle l'a trouvée délicieuse. Ortie domptée et adoptée. Petite victoire pour Capucine, qui lui a ensuite proposé de goûter chaque plat pour vérifier l'assaisonnement. « Je n'y arriverai jamais, il y en a trop. De toutes petites bouchées. » Elle a réussi avec trois salades, puis s'est arrêtée, les larmes aux yeux. Capucine a fait diversion en lui demandant s'il fallait corriger les saveurs de celle-ci. Clémence a hésité, lui a avoué sa peur de se tromper, l'incertitude de ses papilles qui n'ont jamais connu une telle diversité. Un petit panier d'assaisonnement sera finalement déposé sur la table et chacun se débrouillera. Tous se sont douchés, changés, les yeux rougis de soleil, de poussière, de fragments de foin et de tonnes de fatigue. Capucine a pris soin des plaies de Clémence. Elle a appliqué du miel, un pansement gras, des bandes. Cela a piqué. Clémence n'a pas pleuré. D'avoir conduit un tracteur la rend plus solide. Ce soir, autour de la table, elle attend les réactions, espère des compliments quand les autres goûtent la soupe. Des « des « oh !» des questions, des bravos. Clémence est soulagée. En même temps que le contenu de leur assiette, il faut disparaître le souvenir de ses centaines de points blancs sur les jambes quand elle était tombée dans les orties en jupe à l'âge de 5 ans. Ainsi commence-t-elle à digérer la brûlure qui avait duré des heures, les railleries de son père qui l'avait traité de mauviette, qui s'était moqué d'elle jusqu'au soir en la voyant pleurer dans les bras de sa mère qui n'osait rien dire. Clémence avale quelques cuillerées. L'amertume n'est plus que dans sa tête. Sa bouche lui souffle qu'elles sont inoffensives.
On l'achète encore. Bientôt ce sera la nôtre,
affirme Adrien en proposant un supplément de crème fraîche à chacun. Vous ne vouliez pas des chèvres pour le fromage? S'étonne Karine.
Une petite vache nous permettra d'avoir un autre type de lait. Celui de chèvre est plus typé, tout le monde n'aime pas. Et il n'est pas assez riche pour couvrir nos besoins en crème et en beurre.
Riche en quoi ? Demande Clémence, qui, pour la première fois, prend la parole spontanément dans une discussion commune.
En matière grasse et protéique, ce qui participe à la consistance des produits transformés.
Capucine lance un clin d'œil à son compagnon. Ils l'atteindront un jour, cette autonomie. Adélie, sa petite sœur, en sera heureuse, elle qui se bat pour sauver le vivant sur une planète envahie par des humains cupides et inconscients. Durant le dîner, Paul et Jeannot ont raconté la vie du hameau, les autres voisins, leur existence bien remplie, leurs petits-enfants trop loin. Ils sont partis avant le dessert. Adrien somnole de bonheur et d'épuisement. Il aime ces soirs où l'esprit sait pourquoi le corps va s'endormir en tombant comme une pierre. Une fatigue saine et puissante. Ils se demandent à voix haute combien de bottes ils ont pressées.
1312, répond Clémence sans hésitation. On en a rentré 1165 et il en reste 147. D'ailleurs, on a mis les trois dernières ensemble, sinon l'une d'elles aurait été seule sous la pluie. Tu les as toutes comptées ? S'étonne Karine. Oui, répond-elle en rougissant. Et toi, tu comptes pour nous, dans les deux sens du terme, affirme Rémi en la regardant dans les yeux. Elle a baissé les siens. Elle va bientôt pouvoir compter ses larmes. Face au doux embarras dans lequel est plongée la jeune femme, Adrien recentre les attentions sur le foin en constatant qu'ils ont fait une assez belle récolte malgré le manque d'eau des dernières semaines. Puis, un silence s'installe. Karine se sert un dernier verre de vin. Assommée par l'épuisement, elle est plus discrète qu'à l'accoutumée. Elle mesure la puissance de la solidarité pour venir à bout des tâches qui semblent hautes comme des montagnes. Les clôtures, les foins, le potager, agir ensemble leur permet d'avancer plus vite et de tenir éloigné le découragement. Précisément ce qu'elle essayait de transmettre à ses élèves quand elle leur proposait de travailler en groupe. Il lui manque. Rémi finit par rompre le silence après avoir pris une grande inspiration. « J'ai besoin d'être honnête avec vous, de vous dire d'où je viens et pourquoi je suis là. Nous commençons à mieux nous connaître, à partager de beaux moments. Je ne veux pas que vous ayez un jour l'impression que je vous ai trahi. » « Tu n'es pas obligé, » précise Adrien. « Je sais, mais je me sens bien avec vous. J'aurais l'impression de vous cacher quelque chose, de pas être sincère, de gâcher l'esprit qui règne ici. » Capucine saisit la pile d'assiettes à dessert et distribue une part de tarte aux fraises à chacun. Il faudra s'occuper les mains, regarder sa cuillère, mâcher longuement, nourrir le palais de saveurs sucrées pour laisser au jeune homme le temps de la confidence. Sans connaître la raison de son incarcération, elle sait que l'aveu sera douloureux. Il ne tergiverse pas et se lance comme on saute dans le vide sans réfléchir, sans même vérifier qu'on dispose d'une sécurité. Il n'en a pas. Chute libre. Je sors de prison. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai été condamné à 7, mais entre les remises de peine pour bonne conduite et la conditionnelle, j'ai pu sortir. Un ange passe, déguisé en diable. Personne n'ose l'interroger. Pourquoi 7 ans ? On se doute que ce n'est pas pour avoir roulé sans permis ou volé un sac à main. Il avale un morceau de tarte aux fraises en lui trouvant un goût de sang. Il s'est longuement mordu l'intérieur de la joue juste avant de prendre la parole, comme si une partie de son cerveau lui interdisait de parler, pendant que l'autre le suppliait de le faire, de ces dilemmes insensés qui donnent le vertige. Il n'arrive pas à poursuivre. Chacun regarde son assiette, mâche en silence le morceau de tarte. Les fraises sont juteuses et sucrées comme un pansement sur la réalité. Rémi s'est arrêté de manger. Clémence n'a même pas commencé. Elle se tord les doigts, une question au bout des lèvres refuse de les franchir. Un sombre « pourquoi » rôde autour de sa tête. La prison. Elle se souvient du sentiment de protection qu'elle ressent quand elle est à ses côtés. Et s'il était dangereux ? Et si elle s'était trompée ? Est-elle condamnée à être en danger ? Clémence repense à l'abri à chevaux sous la pluie, à ses grandes mains chaudes qui protègent les ampoules, à son regard doux sur elle. Il ne peut pas être mauvais. Elle refuse de le croire. Pas à tous, pas lui. Elle baisse la tête quand il la regarde. Leurs yeux se ratent, s'évitent. Timidité de crise. « Bon ?» s'exclame Karine. « J'imagine que tout le monde se demande ce qui t'a valu une telle condamnation. En même temps, on se fiche un peu de la raison. Non ? T'as pas une tête de psychopathe ?» Les muscles des joues de Rémi tressaillent. Il serre les dents en regrettant le saut, en attendant de se désagréger au pied de la falaise sous le regard médusé de ceux qui n'avaient rien demandé. Sa petite cuillère laboure la tarte, dissèque les fraises. Pourtant libre, sa chute l'enferme dans un jusqu'au boutisme auquel il n'avait pas songé. Le sol s'approche dangereusement. Quoi qu'il dise, il va s'écraser. Mais se taire équivaudrait aussi à parler. « T'as raison, on s'en fiche un peu, » confirme Adrien. « La seule chose qui compte ici est de regarder où l'on va, pas d'où l'on vient. »« Qui veut une boisson chaude ?» demande-t-il en se levant. Personne ne répond. Rémi aimerait regarder Clémence, scruter le moindre signe sur son visage. Il a peur que le peu de complicité qu'il a réussi à créer avec elle en 2 semaines ne se soit désormais envolé. Chacun digère. Le repas et les aveux. Rémi se rend compte qu'il ne pourra plus jamais rencontrer quiconque sans avoir à avouer sa faute ou assumer le fait de la taire. Plus il dure, plus le silence devient épais et difficile à rompre. Contre toute attente, Clémence ose. « Pour moi, ça change rien. Je suis sûr que t'es quelqu'un de bien. » Elle se sauve en laissant son assiette de dessert encore pleine. La veille, elle avait pourtant tourné le fouet dans la casserole pour réaliser une savoureuse crème pâtissière, étaler la pâte sablée et l'appareil refroidi, ranger minutieusement les fraises en spirale. 76 au total. 2 mangées en cours de route, tant elle sentait bon. Elle a l'estomac plein, non pas de ce repas qu'elle n'a fait que picorer, mais d'une boule qui prend toute la place dans son ventre. Elle va se réfugier dans son alcôve, les couleurs de la nature imprimées sur sa rétine, et demain, peut-être, elle grignotera la part de gâteau que Capucine lui aura réservée. La fuite de l'une interrompt la chute de l'autre. Les regards se tournent ailleurs. Répit miraculeux qui sauve un instant Rémi de l'aveu. Il ne pense qu'à Clémence, ému par les derniers mots qu'elle a prononcés. Il a tellement peur de la décevoir. Entre ses mains qui tremblent encore, sa petite cuillère est tordue. L'angle à 90 degrés du manche atteste les turbulences émotionnelles qu'il vient de traverser. Karine quitte à son tour la table en silence. Elle commence à se demander si l'homme assis en face d'elle est réellement aussi doux qu'il semble l'être. Elle pense à celui qui lui a fait du mal et qui n'a même pas été condamné. L'impunité est un poison versé sur les plaies des victimes. Karine a fui sans qu'il soit inquiété, et combien d'autres? Faut-il se battre ou capituler? Elle, la guerrière, la joyeuse, la solide, a rendu les armes. Elle aimait pourtant son métier. Il l'en a dégoûté. En marchant sur la route en lisière de forêt, elle éprouve le besoin d'appeler Timothée. Un peu plus tard, elle fouillera discrètement au fond du placard, derrière les bouteilles d'huile, à la recherche de réconfort. Rémi propose à Adrien de faire à sa place le tour des animaux afin qu'il puisse rejoindre Capucine à fleur de peau après ses 3 jours intenses. Il s'attarde un instant auprès des chevaux afin de débarrasser des mouches et des temps qui les rendent fous à longueur de journée. Petit répit jusqu'au premier rayon de l'aube. Stevia se repose dans un des 2 box, les yeux à demi fermés. Il s'approche d'elle, la caresse. Tu ne sais pas non plus, toi, pourquoi j'étais en prison, n'est-ce pas? Tu veux que je te le dise? Il se met sur la pointe des pieds et chuchote dans son oreille. La jument reste impassible, à peine un souffle un peu plus fort que les précédents. Rémi colle son front contre la crinière pour sentir sa chaleur, puis il verrouille la porte de l'enclos derrière lui. Une larme coule sur sa joue.